L'évangile de Luc au chapitre 2. Alors il y a pas mal de textes pour introduire la prédication et vous allez voir, il y a bien sûr un fil conducteur entre toutes ces références. Luc 2 et à partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre » et bienveillance envers les hommes. Amen. On va au verset 25 du même chapitre, au verset 25. C'est au huitième jour de l'enfant Jésus. Au verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. » Dans le même évangile, au chapitre 22, nous lirons à partir du verset 14, Luc 22. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 16, on lit encore quelques lignes, trois versets, les versets 25, 26, 27. Romains 16, verset 25, « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Et puis pour en terminer avec ces lectures d'introduction, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et on peut aussi lire au chapitre 2, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen. Nous avons fait ici quelques lectures, et peut-être là, dans un premier aspect, il est difficile de faire un lien entre ces lectures. Cependant, l'idée principale de ma prédication ce matin, c'est que nous comprenions que, à la différence du monde qui célèbre Noël comme un événement du calendrier, eh bien, dans le plan de Dieu, Noël, la venue du Sauveur, est bien plus qu'un événement isolé. Lorsque nous avons lu ces quelques textes classiques de la nativité et puis des premiers jours de l'enfant Jésus, il y a déjà dans l'annonce de la naissance du Sauveur des éléments qui montrent que la naissance de Jésus n'est pas un événement isolé et historique seulement, mais c'est le commencement du plan du salut. Amen. Ce jour où Jésus est né inaugure la mise en œuvre d'un plan merveilleux que Dieu avait depuis toujours prédéfini dans sa préscience, un plan que la Bible qualifie de mystère, un mystère caché avant tous les siècles. On s'aperçoit, frères et sœurs, chers amis, que la croix du calvaire, le sacrifice de Jésus, c'est quelque chose qui était déjà planté dans le cœur du Dieu Sauveur depuis toujours, avant les siècles. Le plan du salut était déjà en suspens. Les prophètes l'ont annoncé. Dès le jardin d'Éden, il y a des éléments très forts, très clairs, qui préparent un temps marqué, qui est la naissance du Sauveur. La naissance du Sauveur n'est pas fortuite, ce n'est pas une coïncidence factuelle, ce n'est pas quelque chose de banal, mais c'est la mise en œuvre concrète d'un plan très ancien que Dieu avait prévu pour venir sauver l'humanité. C'est le salut, le si grand salut de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous célébrons Noël, etc., nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous élève et nous donne de comprendre que la venue de Jésus est le déclenchement du plan du salut pour l'humanité. Dans le cours de cette prédication, je vous parlerai premièrement de la croix qui est plantée dans le cœur de Dieu depuis toujours. Je vous parlerai de la croix qui a été plantée aux abords de Jérusalem sur la colline de Golgotha, d'une façon bien concrète. Je vous parlerai de la nécessité, troisièmement, que la croix de Jésus soit plantée dans le cœur de chacun d'entre nous, parce qu'elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le jour où je crois, son divin sacrifice se plante dans mon cœur, elle devient puissance de Dieu. On va développer cela tout à l'heure. Et j'aimerais finir en vous rappelant que la croix de Jésus, son sacrifice, ses douleurs et ses souffrances volontairement endurées seront dans le ciel et au siècle des siècles l'élément central qui va nourrir notre amour et notre adoration pour le Seigneur. Et nous verrons tout à l'heure dans l'Apocalypse qu'il est fait mention clairement à cette démonstration de l'amour sublime de Dieu à travers l'agneau immolé. Alléluia. Donc, c'est les quatre facettes que je vous propose que nous puissions décortiquer, forcément avec la limite du temps imparti. La croix était depuis toujours plantée dans le cœur de Dieu. Le Dieu prescient savait qu'il fallait, le moment venu, payer un prix inestimable pour remède au drame du péché dans lequel l'humanité allait basculer. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il prévoit, il a une lecture d'un seul regard de tout le cours de l'histoire. Et avec ce regard qui embrasse la totalité de l'histoire de l'humanité, Dieu prévoit le remède. Et je suis heureux de dire que le remède au mal-être de l'homme, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. La dernière Pâque, l'ultime Pâque que Jésus a partagée avec ses 12 apôtres, ses 12 disciples, revêt une intensité particulière. Le Seigneur Jésus va dire ces mots: j'ai désiré vivement. J'ai désiré vivement de manger cette Pâque, cette ultime Pâque avec vous. Et il prend les emblèmes que nous-mêmes nous aimons beaucoup célébrer. J'ai désiré vivement, et dans le texte grec, ce serait le mot passionnément. Il y a une intensité émotionnelle, mais surtout spirituelle, dans le cœur de Jésus, comme s'il y avait une hâte à manger cette Pâque ultime, parce qu'il est à un pas, enfin, d'accomplir le plan du salut. Quelques heures plus tard, il sera cloué à la croix. Et quelques heures plus tard, on l'entendra prononcer ses dernières paroles, « Tout est accompli !» Alléluia ! Et voyez-vous, il y a un fil conducteur entre l'annonce de la nativité et cette ultime Pâque que Jésus va avoir hâte de partager avec ses disciples. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on fait des spectacles de Noël, etc., on utilise les armées célestes, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Mais déjà dans la louange angélique, il y a déjà en filigrane l'annonce du sacrifice de Jésus. Lorsque les anges crient paix sur la terre, et bienveillance envers les hommes. Mais, mes amis, la véritable paix triomphant sur le chaos de l'humanité n'est possible que par la croix. C'est par son sacrifice à la croix que Jésus a fait l'œuvre de réconciliation et de paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui peut devenir ton privilège ce matin, cette paix, elle a un prix. Et le prix, c'est le sacrifice de Jésus. Lorsque l'enfant Jésus a 8 jours, selon la tradition, bien sûr, juive, les parents viennent pour le présenter et on a lu ensemble cet épisode très très poignant de Siméon, ce vieillard pieux sur lequel l'Esprit de Dieu reposait, et on a lu tout cela, vous voyez, et il annonce des choses grandes concernant ce petit enfant. Il annonce des choses tellement surprenante que Joseph, Marie sont dans l'étonnement, dans l'admiration même, il est écrit, et à un moment donné, Siméon se tourne vers Marie. Et il lui dit, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Mais de quoi parle-t-il, si ce n'est de la croix? 33 ans plus tard, Marie, au pied de la croix, va voir son fils dans un état de souffrance indescriptible, et on comprend que cette souffrance-là, c'est une épée qui transperce son âme. Siméon annonce le sacrifice de Jésus. La raison d'être de Noël, c'est le déclenchement de tout un plan qui a son point culminant à Golgotha, où Jésus prend tes péchés, mes péchés, ceux du monde entier, et il subit le châtiment qui nous donne la paix, que le Seigneur soit béni. Donc, il n'y a pas de vrai sens à Noël sans la croix. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, hein, parce que effectivement c'est le dernier pas avant le glorieux et le merveilleux tout est accompli qu'il va prononcer à la croix. Et cette croix, je le disais, est depuis toujours dans les plans et les desseins du Seigneur. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit des choses très claires qui déjà préparent et annoncent dans le jardin d'Éden. Pour couvrir la honte d'Adam et d'Ève, il y a eu la solution humaine des feuilles de figuier. C'est pas très résistant, ça. Et puis, il y a la vraie solution. Et la vraie solution, c'est Dieu qui la révèle. Il prend un animal innocent, il le sacrifie. Et avec la peau, il confectionne des vêtements. Pour couvrir la honte de la nudité d'Adam et d'Ève. C'est déjà l'annonce de la croix, sacrifice de Jésus. Et le temps passe, et il y a Abraham, à qui un jour Dieu dit: Abraham, me voici Seigneur, offre-moi ton fils. Et il y a l'épisode du Morija, où Abraham réveille son fils de bonne heure, et ils se mettent en route avec un serviteur, une mule chargée d'un fagot de bois, et avec le feu, ils se mettent en marche, et ils voient de loin le Morija. Ils y montent, Abraham élabore un autel, et puis il y a ce geste sublime de cet homme de foi à qui Dieu avait dit que sa postérité serait plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, et qui ne pouvait pas concevoir que c'est Isaac, l'enfant de la promesse, qui allait être une source de bénédiction pour toutes les nations, meurt définitivement. Mais il obéit, parce qu'il est porté par l'esprit prophétique du sacrifice de Jésus. Et au moment où il s'apprête à exécuter son fils, Dieu l'arrête, et vous connaissez la suite. Il y a là un animal coincé dans les buissons, et c'est cet animal qui est sacrifié. Et puis, on continue comme cela, et tout au long de l'Ancien Testament, l'instauration de la Pâque, du temps de Moïse, le sang de cet agneau d'un an, mâle, sans défaut, et dont le sang va être porté sur les linteaux et les poteaux des maisons, n'est-ce pas ? C'est la préparation de la croix. Bien plus tard, quand Jean-Baptiste, voyant Jésus, va le pointer en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », eh bien, tous les Juifs ont compris le message, parce que l'agneau, ils connaissent. Depuis 1500 ans, avec Moïse, ils connaissent le sacrifice de l'agneau. Ils savent ce que signifie la Pâque. D'ailleurs, la fête de Pâques est une des fêtes majeures qui ponctuait le calendrier du peuple juif. Et non seulement cela, mais Dieu avait décrété que la fête de Pâques serait le commencement de l'année. Et dans le texte, littéralement, cette fête de Pâques, ce serait la tête de la nouvelle année. Donc la nouvelle année pour les Juifs, ce n'était pas à cette époque-là le 1er janvier, mais c'était à la Pâque, la célébration de la Pâque. C'est-à-dire que tous les cycles annuels, pour commencer une nouvelle année, on mettait en valeur la Pâque. Et c'est sous le bénéfice de cette Pâque que l'on s'apprêtait à entrer dans une nouvelle année. C'est le message que Dieu exprime à travers tout ce rituel. Plus tard, après Moïse, c'est Josué. Et vous savez qu'il a envoyé deux espions à Jéricho pour inspecter un petit peu le contexte. Et c'est une femme, Rahab, qui va les accueillir, n'est-ce pas, et user de bienveillance envers eux. Et avant donc de la quitter, Rahab fait une demande en disant: j'ai usé de bienveillance envers vous, n'est-ce pas, je sais très bien, elle le sait d'où, je crois qu'elle le sait par une révélation, et je sais que l'Éternel est avec vous et que vous allez conquérir. Alors lorsque vous viendrez, usez de grâce et de bonté envers moi et tous les miens. Et les deux espions vont lui dire: très bien, on va faire une alliance avec toi parce que tu as eu de la bonté et de l'hospitalité. Alors, mets un cordon de fil cramoisi à la fenêtre de la chambre où tu nous as accueillis. Et ce cordon rouge servira de signe. Est-ce que ce n'est pas déjà une préfiguration qui nous parle du rouge, du sang que Jésus a versé à la croix tout au long de l'Ancien Testament, et on pourrait continuer longuement. Dieu nous montre que dans ses pensées, dans ses desseins originels, la croix, elle est présente. Elle est présente. Même dans le culte lévitique, il y avait dans cette structure complexe qui était le tabernacle une minutie et des consignes très claires que Dieu avait ordonnées. Lorsque le juif venait pour accomplir un acte de dévotion, il franchissait la porte et la première chose qu'il rencontrait, c'était l'autel d'airain. C'était l'autel où l'on offrait des sacrifices, préfiguration de la croix de Jésus. Bien plus loin, en entrant, il y avait le lieu très saint, réservé à l'époque au seul souverain sacrificateur une fois par an, mais la première étape, le premier, je dirais, face à face, qui se produisait, c'était cet autel d'airain qui symbolise la croix de Jésus, la croix du calvaire. Et vous avez remarqué qu'un des nombreux rois en Israël, Achaz, qui était un roi impénitent et rebelle au Seigneur, lors d'une visite à Damas, voit un autel païen, mais tellement plus impressionnant. Et il se dit, je veux cet autel-là, parce que sa configuration, c'est bien plus impressionnant que le petit autel d'airain, n'est-ce pas? Alors, en rentrant, il fait en sorte que on est confectionné, le sacrificateur Uri à l'époque va confectionner un autel exactement sur les mêmes dimensions que celui de Damas. Et Achaz va dire, l'autel de l'Éternel, l'autel d'airain là, on va le décaler, on va pas le supprimer, on va le décaler du côté du nord. Et il dit à Uri, je m'en occuperai. C'est le symbole, je pense, du drame le plus grave qui pourrait se produire et qui s'est produit malheureusement dans la chrétienté au fil de l'histoire de l'Église, lorsque la croix est décalée, lorsque la croix n'est plus centrale, lorsque, en entrant dans une démarche de dévotion, je ne suis plus immédiatement confronté avec l'œuvre sublime de Jésus qui a donné sa vie pour que je sois sauvé. Cette réalité du sacrifice de Jésus, on la décale et on la remplace par des choses beaucoup plus flatteuses, conformes à l'esprit de grandeur illusoire des hommes. La place de la croix de Jésus doit demeurer centrale, parce qu'elle est centrale dans les desseins de Dieu. Alléluia. Et puis cette croix, je disais, a été plantée sur le mont Golgotha. La Bible nous parle de ce mystère qui est resté caché, mais qui un jour a été manifesté. Et c'est, il y a environ 2000 ans, ce mystère caché depuis toujours a été manifesté. Jésus de Nazareth, à l'âge de 33 ans, est maintenant cloué sur la croix, entouré de deux autres suppliciés qui, eux, méritaient leur sort. Il est là, la croix est plantée à Golgotha. Et voyez-vous, dès que le tout est accompli de Jésus a été prononcé, il s'est passé quelque chose, une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. La terre a tremblé. Les morts ont ressuscité. Le voile dans le temple, ce n'était pas du voilage, c'était une tenture épaisse et lourde, a été déchirée d'en haut jusqu'en bas, c'est pas deux hommes fanatiques qui d'en bas ont tiré. Non, 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 c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile pour envoyer un formidable message. Et ce message, en substance, pourrait dire, maintenant que tout est accompli, il est possible à tout un chacun qui croit d'entrer dans la présence de Dieu et d'obtenir grâce, miséricorde, pardon des péchés, guérison des maladies, que le Seigneur soit béni. C'est pour cela que l'apôtre Paul va écrire avec beaucoup de conviction que le sacrifice de Jésus, c'est puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Et je parlerai ici maintenant de la nécessité que la croix de Jésus soit plantée en toi. Elle devient puissance de Dieu à partir du moment où tu crois. Elle peut être un objet de risée pour les incrédules, de dénigrement, d'abjection, de répulsion. Mais dès l'instant où il se produit le déclic merveilleux de la foi dans un cœur, la croix de Jésus devient puissance de Dieu. Amen. La croix de Jésus, ce n'est pas un objet porte-bonheur. Ce n'est pas une relique. Moi, quand j'étais gosse, je vous le dis entre vous et moi, ne le mettez pas sur Facebook. Quand je voyais passer un corbillard, je faisais trois fois le signe de croix. Parce que je l'avais vu faire par les adultes. Tout petit, un corbillard, j'avais une telle frousse, et je pensais que ce triple geste allait me protéger. Moi, j'avais un membre dans la famille qui était un mécréant notoire, sauf que à table, il ne coupait jamais le pain sans avoir fait, avec la pointe du couteau, un signe de croix sur le pain. Il croyait rien, le gars. T'es mécréant. Mais il faisait le... La croix, c'est pas ça. La croix, ce n'est pas un signe, ce n'est pas un sigle, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas un geste mystique vidé de son sens. Non, 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 non. Pour ceux qui croient, la croix de Jésus est puissance de Dieu. Et je prie le Seigneur pour qu'il en soit ainsi ce matin. Amen. Dans ta vie, que l'étincelle de foi qui va s'allumer en toi puisse déployer la puissance de Dieu qui va te secourir. Et cette puissance est puissance de salut. Et ce mot salut, ce n'est pas qu'un mot. Mais c'est un programme divin, un programme divin. Le salut couvre tous les besoins présents et éternels de chaque être humain. Le salut, c'est le si grand salut. Dans le salut de Dieu, il y a bien entendu, premièrement, le pardon et la délivrance de nos péchés. Et si quelqu'un est travaillé dans sa conscience, et si tu es frustré de paix parce que cycliquement, certains éléments de ton passé viennent comme te persécuter, hein, te déstabiliser, le remède, c'est la croix. Et le remède, plus précisément, c'est ta foi dans la croix, dans le sacrifice de Jésus. Ta foi va être l'interrupteur qui va déclencher la puissance de Dieu pour ton secours et pour ta mise au large. J'aimerais m'adresser quelques instants à ceux qui ont des problèmes de maladie, ceux qui sont éprouvés dans leur santé. Ma Bible me dit que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pour celui qui croit dans le sacrifice de Jésus, sa croix devient puissance de guérison. Amen. Puissance de guérison. Je m'attends à ce que quelqu'un et plusieurs soient maintenant guéris dans leur corps. Une vraie guérison divine, miraculeuse, incontestable. Nous remercions tellement le Seigneur pour la sagesse et l'intelligence de nos scientifiques. Et merci Seigneur. Mais lorsque la science des hommes arrive à ses frontières, Dieu, lui, outrepasse les frontières, car il est sans frontières. La croix de Jésus est puissance de guérison. Que quelqu'un reçoive la guérison ce matin. Amen. Que quelqu'un reçoive la guérison par l'étincelle de foi que le Saint-Esprit est en train de susciter dans son cœur. Je ne sais pas si je vous ai partagé ce témoignage, mais j'aurais pu en partager des dizaines. Le témoignage d'une mamie dans l'église de Chalon-sur-Saône, à l'époque où j'étais jeune, beau et chevelu. Nous avions une chrétienne magnifique, magnifique, magnifique de fidélité, de simplicité dans sa foi. Vous voyez, il y en a qui veulent avoir des cerveaux à plusieurs étages et faire les théologiens qui ne seront jamais. Et puis, il y a des chrétiens simples, sincères, qui font bouger le bras de Dieu. Elle en faisait partie, vous voyez. Et chaque fois que je la visitais, cette chère sœur, elle me faisait du bien. Personne âgée. Elle avait été mise au contact de l'Évangile il y a bien, bien longtemps en arrière, dans un contexte de maladie très, très grave, une sclérose en plaques qui l'avait réduite à être sur un fauteuil roulant. Elle était pratiquement à l'article de la mort. Et puis deux prédicateurs sont venus, lui ont parlé de Jésus, etc. Ils ont prié pour elle. Dieu l'a guérie de la sclérose en plaques merveilleusement. Elle s'est convertie, elle a pris le baptême, et elle est devenue une colonne dans l'église de Chalon-sur-Saône. Et puis moi, je l'ai connue donc bien des décennies plus tard. Et elle m'a raconté un jour une expérience toute récente qu'elle venait de faire. Elle m'a dit, frère, voilà ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'étais mal. Pas bien du tout. J'avais de la fièvre, je toussais méchamment, j'étais pas bien. Alors j'ai été consulté et j'ai eu une ordonnance et j'ai été à la pharmacie et j'ai pris tous les médicaments prescrits. J'en avais pour deux sacs pleins et jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est bien ce qu'elle a fait. Je ne suis pas en train de dire non, c'est bien ce qu'elle a fait. Elle a fait ce que j'aurais fait. Hein, voilà. Et elle me dit, je rentre chez moi et bien sûr, il y avait à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui si ça existe toujours, les feuilles de maladie avec des vignettes. Elle me dit, écoutez, j'étais en train de coller mes vignettes, les blanches, les bleues. Et là, devant ces deux sacs de médicaments, le Seigneur me visite. Une conviction descend dans mon cœur, tu es guéri. Ah, je ne m'y attendais pas, hein, mais c'est venu, une conviction, tu es guéri. Alors, vous savez ce que j'ai fait, frère? J'ai remis tous les médicaments, je n'avais pas encore ouvert les boîtes. Hein. Je suis descendu à la pharmacie, j'ai rendu les médicaments et j'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Mais c'est que, instantanément, la fièvre s'était retirée. Les voies respiratoires assainies, elle avait retrouvé sa force, mais en quelques minutes, que le Seigneur soit béni. Ça, c'est la foi qui est comme un interrupteur qui déclenche la puissance de Dieu. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Amen. Le 29 décembre 2024, il est le même et il l'est éternellement. Que le Seigneur soit béni. Oh mon Dieu, que ce matin plusieurs soient guéris dans leur corps, guéris peut-être aussi au plan de leur pensée, guéri, rendu vainqueur. Puissance de Dieu, puissance de Dieu. Est-ce que tu veux vivre la puissance de Dieu ? Alors ne cherchons pas dans des choses novatrices, et non, mais revenons aux sources bibliques qui attestent avec force que le message de Jésus-Christ crucifié est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, qu'il en soit ainsi ce matin pour nous tous. Amen. Et puis je termine ma conclusion, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que la croix de Jésus, ce ne sera pas un simple fait historique englouti par le temps qui passe, pas du tout, mais dans le ciel. Ma Bible me dit que dans le ciel, les rachetés vont chanter aussi. Amen. Et même moi, je chanterai juste. Et ils vont chanter pas n'importe quoi, ils vont chanter le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et de l'agneau. Ils vont chanter le cantique de l'agneau. Dans un autre passage de l'Apocalypse, il nous est parlé de celui qui est assis sur son trône, et c'est Dieu. Il tient dans sa main droite un livre avec des sceaux, et une question est posée, mais qui est digne de prendre ce livre et d'en ouvrir les sceaux? Et même les anges les plus haut placés ne se sentent pas suffisamment dignes, et Jean, voyant cela, pleure. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure pas, voici le lion de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Alors Jean cherche un lion. Il cherche le lion de Juda, qui a vaincu avec beaucoup de force. Et au milieu du trône, ce n'est pas un lion qu'il voit, mais c'est un agneau, comme un agneau immolé. C'est-à-dire que, certainement, alors là je ne vais pas trop loin, hein, mais certainement que Jean a vu cet agneau avec des marques qui témoignaient que c'est un agneau immolé. Alors certainement, les stigmates des clous, peut-être les points de blessure de la couronne d'épines, que sais-je encore, mais dans le ciel, Jésus se révèle à la fois comme le lion de Juda, parce que c'est le roi des rois, et c'est le seigneur des seigneurs, alléluia. Et à son nom, tout genou fléchit, mais en même temps, il est l'agneau immolé. Ressuscité, glorifié, mais ayant au siècle des siècles les stigmates qui vont rappeler son sacrifice à Golgotha. D'ailleurs, voyez-vous, dans le ciel, toujours dans l'Apocalypse, vous le vérifierez cela, bien sûr. Il y a beaucoup de louanges, hein, beaucoup d'adorations, de louanges. Les anges adorent et ils attribuent fort justement à l'Éternel, à Dieu, le règne, la puissance, la gloire, l'honneur. Et ils ont raison. Et nous aussi, on entre là, hein, dans cette louange. Mais il y a aussi la louange des rachetés. Vous savez, la foule innombrable de toute race, de toute langue, même des Arméniens, il y aura là-bas, avec des palmes dans leurs mains, revêtus de robes blanches, il y a leur louange. Et leur louange, elle comporte un mot que les anges ne peuvent pas comprendre, parce qu'il est un mystère pour les anges. Cette foule, elle crie d'une voix forte, le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Les anges ne peuvent pas comprendre le salut. Ils plongent leur regard dans ce mystère du salut, mais nous, nous l'avons vécu. Et quand la foule innombrable des rachetés clame le salut, il y a forcément dans ce mot salut le rappel du sacrifice de Jésus. Et dans le ciel, on ne veut pas faire de supputations audacieuses, hein, mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que notre amour pour le Seigneur Jésus va être constamment ravivé, nourri, maintenu dans une fraîcheur intacte par le rappel que la croix un jour a été dressée sur le mont du Calvaire. Il est notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, mais il est aussi l'agneau qui a payé de sa vie pour que nous soyons parmi les rachetés. Alléluia ! Et on va le chanter au siècle des siècles, que Dieu soit béni. Plaçons nos vies au bénéfice du tout est accompli de Jésus. Amen. Il n'y a pas de Noël si on n'aboutit pas à Pâques. Il y a un lien de cause à effet. Noël, la nativité, est justifiée par l'accomplissement de la mission. Le tout est accompli du Seigneur Jésus. Je disais tout à l'heure que c'était puissance de Dieu pour la guérison, pour le relèvement, la restauration, l'encouragement. J'aimerais vous inviter à un moment de prière, parce que peut-être quelqu'un a besoin de restauration. Quelqu'un a besoin de retrouver la flamme qui est estompée. Quelqu'un a peut-être besoin de retrouver ces élans indescriptibles et merveilleux qui transportaient son âme. Et aujourd'hui, peut-être, avec l'accumulation de tes déboires, tu es dans un état d'usure. Mais le Seigneur est là pour renouveler ce qui est usé et redonner un esprit de victoire à celui qui est vacillant. Prions.